Blanche ! Cria-t-elle. Est-ce toi ?
Peut-être avait-on déverrouillé aussi les fermetures du second étage. Pourtant, il ne lui semblait pas que la porte se fût ouverte. Et pourquoi sa cousine aurait-elle pris tant de précautions pour avancer ? À moins que... Blanche n'était pas devenue folle subitement.
Blanche ?
Répéta Marguerite d'une voix angoissée. Le silence retomba, et Marguerite un moment pensa que sa fièvre inventait les présences. Mais l'instant d'après, elle entendit le même souffle retenu, plus près, et un très léger crissement sur le sol, comme celui que produisent les ongles d'un chien. On respirait à côté d'elle. C'était peut-être vraiment un chien, le chien de Berzumé, entré sur les pas de son maître et oublié là, ou bien des rats. Les rats, avec leurs petits pas d'homme, leurs frôlements, leurs complots affairés, leur manière étrange de travailler la nuit, à de mystérieuses tâches. À plusieurs reprises, les rats étaient apparus dans la tour, et Berzumé avait amené son chien justement pour les tuer. Mais on n'entend pas les rats respirer. Elle se dressa brusquement sur sa couche, le cœur affolé. Un objet de métal, arme ou boucle, venait de racler la pierre du mur. Les yeux désespérément ouverts, Marguerite interrogea les ténèbres autour d'elle.
« Qui est là ? »
cria-t-elle. De nouveau, ce fut le silence. Mais elle savait à présent qu'elle n'était pas seule. Elle retenait elle aussi inutilement sa respiration. Une angoisse comme jamais elle n'en avait ressenti l'étreignait. Elle allait mourir dans quelques instants, elle en avait l'intolérable certitude. Et l'horreur qu'elle éprouvait dans cette attente de l'inadmissible se doublait de l'horreur de ne savoir comment elle allait mourir, ni en quelle place son corps allait être frappé, ni quelle était la présence invisible qui s'approchait d'elle le long du mur. Une forme noire, un peu plus noire que la nuit, heurta soudain le lit. Marguerite poussa un hurlement que Blanche de Bourgogne, à l'étage du dessus, perçut à travers les pierres et qu'elle se souviendrait toujours d'avoir entendu. Le cri fut tranché court. Deux mains avaient rabattu le drap sur la bouche de Marguerite et le tordaient autour de sa gorge. Le crâne maintenu dans une épaisse poitrine, les bras battant l'air et tout le corps luttant pour tenter de se délivrer, Marguerite râlait à bruit étouffé. L'étoffe qui lui emprisonnait le cou se resserrait comme un collier de plomb brûlant. La reine suffoquait, ses yeux s'emplirent de feu, d'énormes cloches de bronze se mirent à battre dans ses tempes. Mais le tueur possédait un tour de main bien à lui. La corde des cloches se cassa brusquement, et Marguerite tomba dans le gouffre obscur, sans parois et sans terme. Quelques minutes plus tard, dans la cour de Château Gaillard, Robert d'Artois, qui gagnait du temps en buvant un gobelet de vin avec ses écuyers, vit Lormet s'approcher de lui et feindre de ressangler son cheval. Les torches avaient été éteintes. Le jour allait poindre. Hommes et montures flottaient dans une brume grise.
« C'est fait, monseigneur !» murmura Lormet.
« Point de trace !» demanda Robert à voix basse.
« Je ne pense pas, monseigneur. La face ne sera pas noire, j'ai rompu les os du col et j'ai remis le lit en ordre. »«
Cela n'était point travail aisé.
Vous savez bien que je suis comme les chouettes, monseigneur. J'y vois la nuit. »
D'Artois, s'étant hissé en selle, appela Berzumé. J'ai trouvé Madame Marguerite bien mal en point, lui dit-il. Je crains fort à voir son état qu'elle ne dure pas la semaine. Si elle venait à trépasser, voici les ordres. Tu cours à Paris sans autre allure que le galop, et tu te présentes tout droit chez Monseigneur de Valois pour lui apprendre la nouvelle à lui, le premier, et à lui seul. Chez Monseigneur de Valois, tu m'as bien entendu? Tâche cette fois à ne pas te tromper d'adresse et sache clore ton bec. Rappelle-toi que ton monseigneur de Marigny est en prison et que tu pourrais bien avoir une place dans la fournée qui s'apprête pour les potences du roi.
L'aube commençait à paraître derrière la forêt des Andelys, soulignant d'une mince lueur entre le gris et le rose l'horizon des arbres. En bas, le fleuve miroitait faiblement. Robert d'Artois, descendant de la falaise de Château-Gaillard, sentait sous lui les mouvements réguliers de son cheval dont les flancs tièdes frémissaient contre ses bottes. Il s'emplit les poumons d'un grand coup d'air matinal.
« Ah, c'est bon tout de même d'être vivant, » murmura-t-il.
« Ouais, monseigneur, c'est bon, » répondit Lormet. « Pour sûr, ça va être une belle journée de soleil. »